un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Dans le vocabulaire de la presse, on appelle généralement fait divers une information ou un événement qui ne rentre dans aucune rubrique précise. Ce sont des nouvelles de toutes sortes, minuscules ou sanglantes, qui seraient, dit-on, dépourvues de conséquences sociales, politiques, économiques ou culturelles directes. C'est la raison pour laquelle on en parle avec une certaine condescendance ou une gourmandise un peu coupable. Le fait divers n'est pas une information noble, importante. Nous pensons quant à nous que ces petites ou grandes histoires, souvent poétiques, épiques ou tragiques, toujours étonnantes, en disent au contraire assez long sur notre présent. Alors tout de suite, Clément Baudet vous raconte deux faits divers dont je laisse la signification profonde à votre appréciation. Le premier se déroule à Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse. Depuis plusieurs années, les habitants d'un quartier nommé le Rébécédou y sont victimes d'un mal pour le moins étrange. Des crevaisons de pneus aussi mystérieuses que nombreuses. Qui a jeté les clous? C'est la question que nous posons, suivie de la terrible histoire d'Alberto Rodriguez, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Ben moi, j'ai changé les deux pneus avant, il y a un peu plus d'un mois, et là, j'ai changé les deux de derrière. J'ai eu des clous de tapissier, en fait, qui étaient dedans. Ça, j'ai les photos, j'ai porté plainte, et j'ai l'impression qu'il y en a un qui sème un peu des clous, mais bon, je vois pas son intérêt, je vois pas pourquoi il fait ça. Franchement, ça me casse les couilles, on va dire, hein, franchement. Moi, il me tarde de partir d'ici, en fait. Parce que là, ça commence à chiffrer, quoi. Je vois pas vraiment ce que fait la gendarmerie ou la police pour essayer de faire quelque chose, là. Je les vois pas vraiment. Cette personne doit nous écouter ou doit savoir ce qui se passe. Donc forcément, bah écoutez, monsieur, j'espère qu'on vous attrapera pas parce que ça se passera mal pour vous. Moi, ça fait 2 ans que je suis là et ça fait déjà 3 ans que ça dure. Donc, vu le prix des pneus, il y en a qui sont contents, là, chez Feu Vert ou... Hein, c'est sûr. Hein, ça se trouve, c'est eux. Hein.
On s'est organisé, mais ça dure toujours. Bon, on ne sait rien. Oui, la gendarmerie a enquêté, ils ont pris, ramassé des clous avec les gangs, ils ont fait des analyses, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Ça va, toi?
Oui, ça va, regarde, tu vois, moi je suis équipée, pareil, tous les jours. Hein.
Voilà,
on ramasse
les dames
25,
qui ont des enfants, elles mettent des
poussettes.
Des poussettes, tout ça, on met des aimants. Mais il y a toujours de clous. Alors on ne sait pas si c'est des jeunes, si c'est un bonhomme qui a eu un accident de voiture ou quelque chose qui puisse faire ça, on ne sait pas. C'est l'infirmière, hein, 37 fois la crevée.
Elle a encore crevé 4 fois.
Il y a le kiné aussi, et il a dit, moi si je ne vais plus revenir au Recebidou. Et ils travaillent pour changer les pneus.
Mais il y a eu, je ne sais pas si on vous en a parlé, le collectif Recebidou, non? Bah, il y a à peu près 360 membres maintenant, donc c'est tous ceux du quartier, donc forcément, il est peut-être dedans. Mais ouais, non, c'est bien, les gens ils informent où les clous ont été lâchés. Donc bah, ça nous permet de savoir, entre guillemets, pour essayer de les éviter. Mais bon, enfin, qu'on passe là ou là derrière, on me dit non, passe là, non, passe par là, va pas là, passe au milieu... On sait plus où aller, quoi. On va partir en hélicoptère.
Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 37 ans. J'habite au quartier Recebidou, qui est situé à Portet-sur-Garonne, à côté de Toulouse. Mes parents sont ici depuis 1946. Et là, ça va faire 3 ans que nous avons un gros souci de crevaison dans notre quartier. Ici, c'est un quartier familial, donc où beaucoup de familles... Ils se sont mariés de famille à famille, donc voilà, c'est un quartier très très accueillant, donc qui a cette réputation et ça serait bête de la perdre, quoi.
Ben, je m'appelle Axel, j'ai 28 ans, je suis agent territorial, j'habite au Recebidou depuis 2013, mais je connais le quartier depuis que je suis tout petit, puisque j'ai beaucoup de familles qui résident de génération en génération, voilà. C'est vrai que, bon, moi, à titre personnel, j'ai été victime aussi de ces crevaisons. Et puis, les gens se sont parlé, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. On devait être une vingtaine à peu près. Et je me suis dit, bah, tiens, si on le lance sur Facebook, peut-être qu'on va encore en avoir davantage. En une heure, déjà, on avait dépassé les 100 membres. En une semaine, on était déjà à plus de 200. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 360. Le fait de s'être regroupé a permis justement d'échanger des photos, d'échanger des témoignages et de confirmer en fait qu'il y a bien 2-3 rues qui sont touchées par cet individu qui sème des clous.
On s'équipe en gilet jaune, on est aux normes sécurité.
Et on se dit, bah, ce soir à telle heure, un binôme ou à 3, à 4, on part faire une opération nettoyage avec nos instruments, nos balayements pour ramasser ces clous et nettoyer la route.
Je suis là, il est plus large.
Les gens sont surpris, au début ils étaient surpris de nous voir avec nos balais et alors d'aujourd'hui maintenant voilà, les gens nous demandent Yana, vous allez ramasser combien et nous remercient.
Ah, ça c'est le modèle expérimental. C'est avec un aimant de baffle d'une enceinte que mon père a coupé en deux en fait. Et du coup il a réussi à me faire 2 petits balais, mais c'était les débuts, hein, on était encore aux essais. Mais bon, ça ramasse quand même les clous, donc finalement, ça nous sert. Un balai sweeper avec le manche télescopique et tout, comme à la maison, pareil.
Voilà, quand on fait des opérations de nettoyage, on peut être jusqu'à une dizaine à avoir des balayements. Il y en a certaines qui ont des poussettes avec les aimants dessous. On a une voiture téléguidée aussi avec des aimants derrière. Voilà, donc, quand on s'y met tous. Et des fois, à l'œil nu aussi, rien qu'avec l'œil, on peut... On peut arriver à en trouver.
Voilà. Encore un autre. Celui-là, il est vieux, par contre. Ouais.
Vieux et rouillé.
Ouais, celui-là... Voilà. Les deux.
Là, c'est les clous tapissiers, mais il y en a, c'est les pointes, c'est les vis. Puis il y a des grosses ferrailles aussi. À un moment donné, la personne, je pense qu'elle jette les merdes qu'elle peut avoir. Excusez-moi du terme, mais bon, voilà.
Quand le clou attrape, quand l'aimant attrape le clou, c'est d'une puissance. Par exemple, vous voyez, regardez, c'est un truc de malade. Vous avez vu ça?
À partir du moment où on s'est regroupé, la gendarmerie commençait vraiment à s'intéresser au problème, à nous recevoir. Donc ça a été en tout cas la bonne méthode pour nous de relancer l'enquête, voire même de la lancer puisqu'elle n'était pas vraiment lancée, et d'obtenir des moyens.
On a fait ça à une planque toute une nuit, ça a échoué. Alors un soir, donc on a commencé à nettoyer la rue. À un moment donné, une voiture arrive sans phare, donc je suis avec ma torche, et je fous la torche en pleine figure, donc ce véhicule. Et là, le gyrophare se met en marche, donc on se retrouve avec la brigade de Muret qui s'arrête et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc on dit « Voilà, on est en train de ramasser les clous. » Donc il dit « Vous en avez ramassé beaucoup. » Donc là, ils prennent notre butin, voilà, de ce qu'on avait. On avait 25 clous. Et là, je peux vous dire qu'il a dit « Mais on prend la chose vraiment au sérieux. » Mais ils ne peuvent pas être planqués 24 heures sur 24, quoi. Le maire nous a reçus également. Et il nous soutient dans toutes ces démarches aussi. Maintenant, notre but qu'on attend au niveau de la préfecture, c'est qu'on ait des caméras pour que l'on puisse trouver vraiment la personne, parce que ça ne peut plus durer, jusqu'au point que les gens aujourd'hui sont obligés de contracter des crédits pour des pneus. Et là, on arrive au moment des fêtes de Noël et c'est plus possible, quoi. L'ambiance du quartier, du coup, on se regarde bizarrement. Voilà, on essaye de démasquer qui pourrait être cette personne. Et je pense que la personne, elle est vraiment tout près de nous. Ça serait vraiment embêtant que cette personne soit vraiment connue depuis longtemps, parce que les préjudices sont énormes, quoi. On est à plus de 40 000 euros aujourd'hui, quoi. Même des enfants se sont blessés, se sont plantés des pointes, voilà, dans le pied. Donc l'accident peut arriver très rapidement aussi.
Oui, oui, absolument, absolument. Ok, je l'ai marqué un sureau, je l'ai marqué un antihistaminique et je l'ai marqué un chip pour le nez.
D'accord.
Allez, à tout à l'heure, bye.
Oui, je suis le docteur Jean-Baptiste Mourani. Je me suis installé au Recebidou depuis juillet 1984. Ça fait plus de 14 ans que je répare régulièrement mes pneus. Bon, je n'en ai pas tenu compte parce que bon, je suis dans l'action. L'action, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de se lamenter. On va changer les pneus. Jusqu'à l'an dernier, 2015, je crois, j'ai dit, ça suffit maintenant, je vais aller à la gendarmerie pour porter plainte. C'est quelqu'un qui habite le quartier, hein. Ça peut pas être, à mon avis. Bon, c'est sûr, c'est un pervers, hein. On peut le qualifier comme ça, hein. Pour faire ça, il y a de la pathologie mentale dessous, hein. Il n'y a pas photo, hein. Mais bon, vous parlez avec un médecin, je peux pas le qualifier de quelqu'un de sain d'esprit, hein. Maintenant, quel est son âge, quelle est sa vie sociale, familiale, ça reste à définir. Ça peut être un vieux solitaire, un vieux loup solitaire, qu'on veut au monde entier depuis toujours. Ça peut être quelqu'un qui a une histoire particulière avec un voisin. Je ne peux pas. Franchement, là ici, quand je regarde, je fais le tour du quartier, je connais tout le monde. Je n'ose à aucun moment imaginer qu'un d'eux soit capable de faire ça. Parce que je les connais tous. Je ne revois pas un profil de pervers ou de gens qui sont malsains, quoi. Ils ont tous des véhicules. J'ai déjà fait l'inventaire, figurez-vous. Qui c'est qui n'a pas de véhicule? Il n'y en a pas. Alors, c'est très difficile d'imaginer, très difficile.
Les gens regardent à leur fenêtre. Même, ils éteignent la lumière. Donc, c'est grave d'en arriver là, quoi. Donc, ils sont dans leur chambre, ils éteignent la télé, ils éteignent la lumière, ils regardent derrière le rideau pour scruter le premier individu qui passe dans la rue, quoi. C'est pour ça que la caméra, ça peut apporter de la sécurité, de trouver la personne. Et puis bon, sécurité aussi pour tout le monde, je crois.
Bon, caméra, oui. Oui, caméra, oui. Mais le type, il est partie prenante de ce que nous vivons. De son côté, il sait que vous êtes là. Donc lui aussi, il est dans la jubilation. Et en même temps, il est dans la précaution. C'est vrai ou non?
Vous pensez que c'est quelqu'un qui s'amuse?
Oui, je crois, oui. Non, avant, il ne s'amusait pas. Mais maintenant, je pense que oui. Puisqu'on a médiatisé le problème, il doit s'amuser maintenant. Maintenant, oui. C'est avant, non. Je crois qu'il le faisait dans un but, vraiment une intention de nuire. Mais maintenant, il nuit et il a deux plaisirs. Le plaisir de la nuisance qui fait partie d'une pulsion peut-être pathologique. Et maintenant, le plaisir de jouer. Ça devient ludique pour lui, hein. Et j'ai bien peur que les deux qui ont combiné, que ça en fasse un vrai, un pervers heureux. Voilà.
Ça fait même presque peur de le trouver, finalement. On se dit, si on le trouve, nous, avant la gendarmerie, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que ça dure, que les gens sont tellement à bout, que je pense que si c'est quelqu'un du quartier, je pense que ça peut aller loin, quoi, quand même.
La chose positive, c'est que voilà, le quartier a une bonne mobilisation et de l'entraide, et ça crée une autre atmosphère aussi, et plus de partage, et voilà, donc c'est vigilance, enfin voilà, on est voisins vigilants aussi.
Aujourd'hui on se parle, on discute, on arrive à se voir, à se réunir, à prendre parfois un verre chez les uns, chez les autres, s'inviter pour un café ou manger ensemble. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant forcément. Et puis, il faut savoir que ce collectif a vocation, dans un futur, j'espère, assez proche, à devenir un collectif où se déploie de l'entraide entre résidents, la promotion d'événements culturels, associatifs, sportifs. Voilà, les clous, c'était la première étape, l'étape de la création. Après, on espère le développer en réelle association de quartier bénéfique pour tous.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Cédric Fauquet, je suis inspecteur de salubrité à la mairie de Lille. Donc un jour, j'ai reçu une plainte du 16 rue Saint-Jacques, une dame avocate qui se plaignait que la maison à côté était ouverte avec les carreaux cassés aux étages et que tous les pigeons rentraient chez elle. Et elle avait également des traces d'humidité dans sa maison. Donc elle m'a demandé de venir constater chez elle les dégâts qu'engendrait la maison à l'abandon. Elle est très proche, elle est à 5 minutes de la grande place à Lille. Et évidemment, tout le monde a peur de cambriolage, de visite, etc. Donc on m'a demandé de passer pour sécuriser le site. Donc je me suis déplacé sur place à aller rencontrer la voisine. Puis j'ai constaté effectivement que beaucoup de pigeons arrivaient sur le bâtiment voisin, que le bâtiment voisin avait l'air complètement abandonné, notamment par l'arrière. Donc j'ai constaté à l'extérieur que le volet du rez-de-chaussée était ouvert. Et en regardant en dessous du volet, j'ai vu que la fenêtre était ouverte. je pouvais pénétrer à l'intérieur. Et surtout, monter aux étages pour aller fermer les fenêtres pour éviter que les pigeons continuent à investir les lieux et à transformer cette maison en pigeonnier, quoi. Donc j'ai pris un rendez-vous avec un entrepreneur. Avec l'aide de l'entrepreneur, on a soulevé un peu le volet en bois, là, un volet assez lourd. Et donc on a pénétré par cette fenêtre. Et on voyait que ça faisait super longtemps qu'il n'y avait plus personne. Il y avait beaucoup de poussière. Bon, il n'y avait pas de doute, quoi. C'était une maison qui était vraiment à l'abandon. Donc on a décidé de prendre l'escalier pour aller à l'étage. Et c'était un tout petit escalier très exigu, vraiment sale. Et on est arrivé dans une salle de bain, une pièce, on va dire, qui était une ancienne salle de bain qui avait été transformée en cuisine. Là, on trouvait un peu des... On voyait que c'était qu'il y avait une trace que cet endroit-là était utilisé pour faire à manger. Un peu des petits couverts, des assiettes, des restes de, on va dire, d'aliments. Le tout bien recouvert de poussière. Il y avait une porte au bout de cette pièce. Je l'ai juste poussée, hein, tout doucement, et elle s'est ouverte. Je suis rentré, hein, tranquillement, et puis, boum, j'ai vu tout de suite, c'est un bout de jambe en squelette, quoi. Et j'ai fait un saut en arrière, en faisant, genre, il y a un squelette. Et je sais pas, instinctivement, j'ai pris mon smartphone et je l'ai mis en position photo. Et plutôt qu'aller voir de moi-même pour vérifier vraiment de moi-même, c'était vraiment un squelette sur le lit, j'ai tendu mon bras en avançant tout doucement. Et je regardais dans l'écran du smartphone et voir ce corps et découvrir petit à petit, donc du pied en remontant vers la tête. Et puis là, bon, bah, effectivement, on s'est retrouvé face à un squelette allongé dans un lit. Puis là, on s'est aperçu que c'était une personne forte parce qu'elle avait, il y avait un caleçon énorme qui entourait un squelette tout fin. Ensuite, on voyait que le matelas, il était complètement enfoncé avec des taches brunes, noirâtres, en fait, sur le matelas, l'oreiller complètement enfoncé. C'était très triste, hein. Il y avait une pauvre table de chevet vraiment, et puis, il y avait le pot de chambre aussi qui était à côté. Plein de bouteilles d'eau vide, je me souviens. C'est là que je me suis dit qu'à mon avis, il ne devait plus avoir l'eau, il devait aller chercher l'eau ailleurs. Et puis des vieux rideaux devant une fenêtre, voilà, très poussiéreux. C'était triste, hein, la chambre, comme si c'était une sépulture, une tombe ouverte, quoi. Son lit, en fait, c'était son tombeau, quoi. J'ai pensé tout de suite à prévenir mes supérieurs et puis la police, parce que sinon on est obligé de prévenir les services de police dans ce cas-là. Donc la police, elle a enquêté sur l'identité de la personne qui a été retrouvée morte. Personne ne savait qui c'était et lorsqu'on est retourné sur les lieux, ils cherchaient dans toutes les pièces des papiers qui permettraient d'identifier en fait la personne. Là on parle plus d'empreintes parce qu'il n'y a plus rien, donc je pense qu'il y a les papiers, puis après ils prennent le squelette pour faire une recherche ADN. Enfin moi c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils allaient chercher une recherche ADN. Donc ils en ont déduit qu'il devait être décédé depuis une quinzaine d'années. Ils ont trouvé par la suite que cette personne était morte d'une mort naturelle. Ça faisait 15 ans donc qu'il était mort, que c'était à l'abandon. Moi je pense, nous on paye pas notre facture d'eau, je ne sais quoi, on nous relance sans arrêt. Après il y a quand même quelqu'un qui vient toquer pour fermer les compteurs ou je ne sais quoi. Après il y a les impôts, la taxe foncière elle doit être payée normalement. Donc si elle est pas payée, j'imagine que les services ils font une saisie au bout d'un moment. Alors je pense qu'il y a un ensemble où il y a aussi une espèce de désordre administratif aussi où, je sais pas, il a dû rentrer dans une faille, un oubli. Et du coup il est vraiment disparu, quoi. Personne pour s'en soucier, outre l'état de délabrement et puis les problèmes de pigeons là qui embêtaient un peu le voisinage. Alors j'ai échangé avec la voisine plaignante, vu le remue-ménage que ça a fait, quand même des voitures de police partout. Et puis moi je l'ai vu aussi en lui disant que le voisin il était là décédé à côté et que je l'avais trouvé, quoi, dans son lit. Et elle était très stupéfaite quand même, quoi. Je pense qu'elle l'avait vu. On parlait d'un petit homme comme ça qui passait discret, très discret. Je sais pas si elle l'avait vraiment connu, quoi. Je sais pas trop. J'ai plutôt repris après les choses plus concrètes en lui disant que j'ai essayé de faire le nécessaire pour que les pigeons ils arrêtent de venir et de sécuriser le lieu parce que qui était vide maintenant et pour pas que ça attire plus de curieux, quoi.
Dans la cour intérieure de chez moi, on apercevait la façade arrière de sa maison et avec un alignement de pigeons impressionnant, on croyait qu'ils nous guettaient en fait. Et on a vraiment impressionnant, on aurait dit les oiseaux d'Hitchcock alignés sur les fils électriques, mais là c'était sur les rebords de toiture, il y en avait tout autour de notre terrasse. Ça faisait peur. C'était des pigeons que je trouvais fort agressifs et fort gras, ma foi. Je m'appelle Elisabeth Chevannes, j'habite à Lille 7 rue Saint-Jacques, j'exerce la profession d'avocat et je suis la voisine de M. Rodriguez que l'on a découvert décédé en octobre 2012 et qui était, semble-t-il, décédé depuis une quinzaine d'années. Lorsque j'ai constaté que plus rien ne bougeait dans cette maison, je n'entendais rien mais je ne voyais jamais rentrer ni sortir. Il y avait manifestement plein de toiles d'araignées autour de la porte. Il y avait une quantité de courrier qui sortait de la boîte aux lettres. Il n'y avait plus personne qui venait dans cette maison, ça c'était clair. Il y avait aussi des pigeons, plein de pigeons. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Je me suis fait un petit peu renvoyer de différentes administrations parce que ça ne me regardait pas. J'ai fini par lui écrire un courrier recommandé. Un voisin, et comme je n'ai jamais reçu de retour d'air, je me suis dit qu'il avait disparu de la circulation. Je tiens quand même à dire que lorsqu'on fait appel, vous savez, pour indiquer quelque chose qu'on ne sait pas, en disant « est-ce que ce monsieur est bien encore sur la surface de la Terre ?», personne ne vous répond, bien sûr, puisque ça ne vous regarde pas. On vous dit « on est détenu par le secret, on ne vous dit rien ». Je n'ai appelé la mairie qu'après tout ça. Ils m'avaient dit qu'ils diligentaient une enquête et ils sont venus. J'étais en rendez-vous, moi, ici, il était 11h30, et je reçois un coup de fil de la mairie, M. Fauquet, pour ne pas le nommer, qui me dit « venez vite, il y a un problème, on a découvert un cadavre ». Bien, moi, j'ai été entendue auditionnée par les services de police le lendemain après-midi, tout l'après-midi, pour savoir ce que je pouvais dire. Mais c'est vrai que ça étonne tout le monde qu'on ne s'inquiète pas, mais je le savais étranger, je le savais espagnol, je le savais aussi certainement au bord de la retraite. Je pensais qu'il était reparti, je me suis dit, voilà, je ne me suis pas inquiétée du tout de ne plus le voir. C'est un petit monsieur bien banal, un bon petit monsieur, toujours bien mis sur lui, fort peu affable, pas très aimable en tout cas. Quand je l'ai salué pour la première fois, il ne m'a pas répondu. Et quand je l'ai resalué une deuxième fois, il s'est tourné vers moi quand même et il m'a répondu avec un fort accent espagnol que j'ai reconnu. Et je lui ai dit, tiens, vous êtes espagnol. Et du coup, il a claqué la porte et manifestement, il n'était pas très satisfait qu'on le sache. Il n'avait pas l'air du tout handicapé, ni gêné, ni malaisé, ni pauvre. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais dû aller lui préparer une soupe. Et je vous dis, il n'était pas très alliant, mais c'est un monsieur un peu agressif. Il ne supportait pas que les voitures se garent dans la rue, et en particulier devant chez lui. J'ai eu l'occasion de rentrer de vacances. Et on a dû se garer dans chez lui le temps de débarrasser la voiture avant de la porter au garage. Et il a rayé toute la carrosserie de notre voiture, plus la carrosserie d'à côté pour faire bonne mesure, quoi. Bien sûr qu'on en parlait entre voisins, ce monsieur faisait quand même partie du décor. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il n'était pas très sociable, mais précisément on ne le voyait plus. Donc on trouvait qu'il y avait une certaine paix, quelquefois qu'il revenait, il n'y avait plus de carrosserie rayée, il n'y avait plus de... On se disait qu'il était reparti et tout le monde avait à peu près le même sentiment, quoi. Mais personne n'était franchement indifférent, au moins au début, au fait qu'on ne le voit plus. Alors son prénom, son vrai prénom, c'était Amerto Rodriguez. On l'appelait Alberto, c'était un autre prénom. On l'appelle Alberto Rodriguez, mais en fait, son premier prénom, c'était Mamerto. Je l'ai vu sur les documents de l'enquête. Je crois que c'était un monsieur des Asturies qui avait quitté l'Espagne, mais il n'avait plus donné signe de vie à sa famille, et il avait dû quitter l'Espagne au moment de l'arrivée de Franco, ou peut-être même après. Une des possibilités serait qu'il ait fait un séjour dans un camp de transit espagnol, où étaient hébergés les communistes espagnols. D'autres disent qu'il a eu maille à partir avec la police espagnole à l'arrivée de Franco. J'ai découvert ça après sa mort. Je ne savais pas du tout, personne ne savait qui il était, ce qu'il faisait, enfin personne. J'ai appris ensuite qu'il avait partagé la vie d'une dame qui était, si j'ai bien compris, Bouchère, Tripière ou quelque chose comme ça, qui était beaucoup, beaucoup plus âgée que lui et qui devait avoir une trentaine d'années de plus que lui. Cette dame avait-elle un petit peu pris pour son fils ou autrement, je ne sais pas. Il était tellement mystérieux, je crois qu'il brouillait les pistes. Je pense qu'il était toujours, finalement, dans une espèce de syndrome de poursuite, avec une peur bleue qu'on découvre où il se trouvait, pour moi, mais je l'ai appris, ou compris après, en suivant l'enquête. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse disparaître comme ça de la surface de la Terre pendant si longtemps, sans inquiéter personne. Mais vraiment, j'ai été bien marquée par ça. Très marquée, le quartier aussi. Et ça nous a tous laissé quand même un sentiment de malaise quand même, hein, et de mal-être à tous. Il y a beaucoup d'émotions, vous imaginez. Moi, j'étais la première complètement sidérée de savoir que ce monsieur était décédé à côté de chez moi, que je n'en ai rien su, rien compris, rien vu. On était tous sidérés. Alors c'est vrai qu'il y a eu des petites manifestations des bougies qui ont été mises sur l'appui de fenêtre, enfin deux, trois petites choses comme ça, mais c'est tout. Après, il est parti à l'Institut de médecine légale et il en est sorti qu'il y a quelques mois, hein, parce qu'on a pu identifier qui il était. Donc le permis d'inhumer a été délivré et il a été incinéré. Mais je ne sais pas ce que sont devenus ses cendres.
C'était Rumeurs et murmures de faits divers racontés par Clément Baudet, réalisé par Anne Kobilac, avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Cette émission a été diffusée pour la première fois en janvier 2017. Et sachez que depuis cette diffusion, les clous n'ont pas disparu. Il y a toujours des crevaisons. La dernière a touché la voiture d'une infirmière il y a une quinzaine de jours. Ça se calme quelques semaines et puis ça reprend. L'enquête est toujours ouverte et malgré les prélèvements ADN, le tour des magasins de bricolage et quelques plans de nuit, rien n'a abouti. Merci tout de même à Axel, à Lauriane, aux membres du collectif Récébédou, à Jean-Baptiste Mourani, à Cédric Fauquet, à Elisa Betchevan et à Pierre Kerlevéo. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.